Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouverons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Cette semaine, j'ai fait le choix de me rendre à Sarriac-Bigorre. Sarriac-Bigorre, un village situé entre Vic-en-Bigorre et Rabastens-de-Bigorre. Et pour continuer dans la thématique que nous avons partagée depuis quelques semaines, à savoir la décarbonation de notre territoire et plus particulièrement l'agriculture de régénération ou agriculture régénératrice sur notre territoire. Et donc je suis chez Jean-Luc Bongiovanni. Bon, Jean-Luc Bongiovanni, chers auditeurs, on l'a déjà rencontré à deux ou trois reprises dans ses témoignages et je voulais revenir un petit peu chez lui pour vraiment recueillir son témoignage et voir un petit peu la réalité de sa pratique par rapport à ses enjeux. Puisque Jean-Luc a été d'abord un agriculteur conventionnel, puis il a fait le choix, il y a quelques années déjà, de modifier complètement son schéma d'agriculture. Et donc, il peut aujourd'hui témoigner avec recul sur ce qu'il porte. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Benoît.
Peut-être réexpliquer un petit peu l'exploitation et puis la démarche entreprise depuis une quinzaine d'années maintenant.
Oui, alors l'exploitation aujourd'hui, je suis sur une exploitation qui compte 95 hectares de céréales, tout en bio et en conservation des sols, et un élevage de canards prêts à gaver et un élevage de poulets en circuit court, en prêt à cuire. Voilà, en agriculture et conservation des sols depuis les années 2000, tout début des années 2000, où j'étais en ce qu'on appelle les TCS, techniques culturales simplifiées qui n'ont rien de simple, que le nom. Et puis ensuite, un passage en agriculture biologique, dans un premier temps, suite à un remembrement en 2008 sur une partie de l'exploitation, c'est-à-dire toutes les terres qui sont retrouvées proches des habitations, et le passage de l'ensemble de la superficie en 2017 en agriculture biologique.
Alors Jean-Luc, pour nos auditeurs, une agriculture de régénératrice ou de régénération, c'est d'abord avoir le souci du sol, de la vie du sol, et je pense que vous allez nous expliquer un petit peu votre regard, les indicateurs que vous avez autour de ça. Et puis ensuite, ce qui est intéressant et ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment avoir un petit peu au bout de ces années le bilan que vous faites de ces choix, à la fois sur la partie environnementale bien sûr, mais aussi sur la partie économique.
Alors oui, alors d'abord, j'aimerais juste préciser les mots. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'agriculture régénératrice. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, Michel Griffon du CIRAD nous parlait d'une agriculture écologiquement intensive. Puis en 2012-2013, avec le ministre de l'Agriculture Le Foll, donc c'était en 2014 je crois, ouais, on nous a parlé d'agroécologie. Donc et aujourd'hui on parle d'agriculture régénératrice, donc et c'est exactement la même chose, seulement il y a des mots qui disparaissent. Donc ça c'est aussi un signe des temps. Le principe en fait c'est dans un premier temps considérer le sol comme un acteur et non plus comme un support. Ça c'est se dire que notre sol est capable de fournir ce qu'on a besoin pour les plantes, pour nos plantes que l'on cultive. Bon, cela dit, il faut l'aider. L'aider par de l'apport de matière organique. Donc c'est basé sur un minimum de travail du sol et un maximum de couverture de sol par des plantes qui vont transformer l'énergie du soleil en carbone qui va nourrir les sols et qui va nourrir les plantes que l'on va semer pour récolter.
Donc dans le contexte, plus d'azote de synthèse, bon bio, donc plus de désherbant.
Oui, voilà. Alors, aujourd'hui, donc, plus d'azote de synthèse. Alors, quand j'étais en conventionnel, j'utilisais toujours un peu d'azote de synthèse. Je l'avais diminué, mais j'avais diminué que d'un tiers. Et aujourd'hui, c'est plus du tout. Alors, ça veut dire que les assolements sont beaucoup basés sur de la légumineuse, qui va chercher son azote dans l'air pour la remettre, pour l'utiliser, pour pouvoir produire de la matière carbonée. Et puis c'est aussi de l'apport de d'effluents d'élevage, c'est-à-dire de fumier. Donc je nourris mes sols avec les fumiers que je produis sur mon exploitation, mais aussi des fumiers que j'achète à mes voisins qui aujourd'hui, parce que l'azote chimique n'est pas cher, parce que le pétrole n'est pas cher, l'intérêt du fumier n'est pas aussi important quand on est en conventionnel que quand on est en agriculture biologique. Il faut savoir que le prix de l'unité d'azote en conventionnel, c'est 1 euro l'unité. En agriculture biologique, si on doit acheter son azote, c'est 4 euros l'unité. Donc, on est aussi obligé de réfléchir autrement parce que économiquement, on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes enjeux, quoi.
Alors, Jean-Luc, on nous dit en bio, c'est plus de risques parce que les facteurs sont plus impactants, qu'ils soient climatiques ou autres. Et de l'autre côté, on nous dit, ce type d'agriculture, c'est aussi, elle favorise aussi des rendements plus stables. C'est quoi votre avis, vous ?
Alors, on est beaucoup plus lié aux influences du climat. Ça, c'est indéniable. C'est-à-dire que nous, pour avoir une fourniture pour nourrir la plante, il faut que le sol soit chaud. Et qui est de l'eau, de l'air, et que ça minéralise. Donc s'il fait pas chaud, c'est-à-dire si on a un printemps pour des cultures d'été, si on a un printemps froid, on est obligé d'attendre que ça se réchauffe, que le sol se ressuie, et on n'a pas l'engrais chimique qui va faire que la culture va démarrer, même s'il fait un peu froid. Donc il y a ce premier handicap, et le second, c'est par rapport au désherbage, qui est quand même le plus gros problème en agriculture biologique, en céréales. Et donc là, c'est pareil, il nous faut des périodes sans pluie pour pouvoir se débarrasser des herbes non désirées. Donc voilà, c'est un peu plus risqué de ce côté-là. Après, si on a la météo avec nous, les rendements, on a une stabilité. Il y a certaines productions où on est sur des rendements équivalents au conventionnel, notamment toutes les cultures de printemps qui sont des légumineuses, certaines cultures comme le tournesol qui n'ont pas besoin de beaucoup d'azote. On est sur des rendements tout à fait équivalents au conventionnel. Là où on est et on n'arrivera pas à faire le même rendement qu'un conventionnel, c'est tout ce qui est blé. Culture d'hiver, quoi. Là, on est à peu près à 50% du rendement d'un conventionnel. Donc, voilà. Après, les marchés, on est sur des marchés qui sont essentiellement nationaux. Donc, si on arrive à peu près à produire ce que la demande nous demande, on arrive à peu près à réguler l'offre et la demande. Et là, finalement, on n'est pas très en lien avec le marché mondial. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Bien que de plus en plus, on a des importations qui arrivent. Et c'est pour ça que le consommateur doit bien regarder les étiquettes, que ça soit produit au minimum français.
Alors justement, Jean-Luc, quand on voit la caractéristique de votre exploitation, vous avez quand même fait le choix de la diversification de vos revenus, puisque aujourd'hui, vous avez précisé que vous aviez deux élevages donc sur l'exploitation. Et donc, c'est quand même pour vous une diversification par rapport au risque des marchés.
Oui, alors il y a l'élevage qui assure les revenus, notamment, il faut le dire, l'élevage de canards en filière longue et aujourd'hui une filière qui rémunère encore ses agriculteurs et on espère que ça va durer. Et puis aussi, en 2011, j'ai installé du photovoltaïque sur les toits de mes bâtiments et qui sont aujourd'hui un apport qui quand même... qui sont importants pour la survie de l'exploitation et aussi permettre de continuer à investir.
Pour nos auditeurs, avec ce recul, est-ce que vous voyez un petit peu des limites par rapport au choix que vous avez fait ? Est-ce que c'est quelque chose qui est facilement reproductible ou vraiment, c'est quand même assez complexe ?
Alors les limites que je vois, c'est des pratiques qui sont très gourmandes en main-d'œuvre et en mécanisation. Donc le prix de la mécanisation, le coût de la main-d'œuvre. Donc derrière, il faut produire et vendre à un prix correct. Donc ça fait partie d'une première limite. La seconde limite, c'est le dérèglement climatique, où en fait, On peut subir, donc, comme actuellement, des périodes avec où il n'arrête pas de pleuvoir. Et nous, en bio, et on est quand même sur des rotations où on fait pas mal de cultures d'hiver. Et les cultures d'hiver, quand il pleut tout l'hiver, on sait que derrière, on n'aura pas les rendements qu'on peut espérer sur un hiver un peu moins pluvieux. Cela dit, le fait d'avoir pris soin de mon sol et de travailler de cette façon-là, j'ai quand même aujourd'hui des champs par rapport aux champs des voisins qui travaillent autrement qui drainent, et des cultures qui sont encore bien vertes et qui ne présentent pas de carence à aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui va en être d'ici 15 jours, parce que si ça ne s'arrête pas, quoi. Ensuite, le problème de l'été, c'est l'irrigation. On est dans une zone où, si on veut produire sur nos cultures de printemps, il faut irriguer, on n'a pas le choix. Et la problématique, c'est que nous, en bio, on sème plus tard, parce que, comme je l'ai expliqué, il faut semer dans des conditions chaudes. Donc, on ne peut pas faire des semis au mois de mars, comme les collègues en conventionnel pratiquent, parce qu'il ne fait pas assez chaud pour nous. On n'a pas l'engrais donc pour faire démarrer les cultures et le désherbant pour maîtriser l'herbe. Donc, on sème à partir de la mi-mai, quand il commence à avoir de belles journées bien chaudes, et ce qui fait qu'on a besoin de l'irrigation jusqu'au mois de septembre, et voire mi-septembre. Le problème dans la vallée de l'Adour, c'est qu'on n'a pas de réserve, si ce n'est que le lac Bleu, mais qui est limité, et donc au mois d'août, on commence à tirer sur le peu de réserve que l'on a, et nous, l'agriculture biologique est particulièrement pénalisée par l'absence de réserve pour pouvoir pratiquer cette agriculture-là. Donc ça, c'est une limite. La deuxième limite, c'est la volonté et le pouvoir d'achat des consommateurs, ainsi que des collectivités locales qui ne respectent pas la loi Egalim et qui donc n'intègrent pas dans leur cantine scolaire un approvisionnement en produits locaux et en agriculture biologique.
Jean-Luc, dernière question. On a déjà eu l'occasion d'en parler avec vous. C'était un petit peu la relève, les jeunes, par rapport au modèle et par rapport à la visée d'un projet agricole futur. Et avec la pratique que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez tendance à recommander à un jeune qui veut s'installer aujourd'hui ?
C'est compliqué, mais je pense qu'il faut avoir une vision sur des exploitations qui vont aller chercher de la valeur ajoutée. Donc déjà, c'est compliqué d'aller chercher la valeur ajoutée, parce qu'il faut le client en face qui veuille bien payer cette valeur ajoutée. Produire ici dans les Hautes-Pyrénées de la même façon que l'on peut produire en Ukraine, dans des grandes plaines où en fait on ne sera jamais compétitif par rapport aux grands céréaliers mondiaux. Donc avoir une image d'une agriculture locale ou même française qui doit être une agriculture copier-coller d'une agriculture céréalière mondiale, d'après moi, c'est voué à l'échec. Donc il faut aller chercher une valorisation, et il y a encore des secteurs qu'on ne travaille pas trop, nous, en agriculture, notamment tout ce qui est agritourisme. Et puis après, aller sur se diversifier et aller chercher des activités sur l'aval pour pouvoir tenir son exploitation.
Oui, on voit bien que les enjeux économiques sont toujours les mêmes. Hein. Il faut aller chercher de la valeur ajoutée, quel que soit le modèle. C'est le défi premier, c'est vendre, et vendre au bon prix pour pouvoir vivre de ces ventes. Mais en même temps, votre défi à vous aussi, c'est quand même justement de pratiquer cette agriculture qui est respectueuse de la vie du sol, et qui permet aussi la décarbonation de nos territoires, parce que, je le répète, l'agriculture est un acteur important dans cette décarbonation. Merci infiniment, Jean-Luc, encore une fois, pour ce beau témoignage, et puis à bientôt, au revoir.
Merci Benoît, à bientôt.